L'un dans l'autre, l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Perrine.
Bonjour Elsa, bonjour tout le monde. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet.
Depuis les panneaux retournés et les récents blocages routiers, la mobilisation des paysans s'est fait entendre. Entre hausse des charges, excès de normes, juste rémunération des producteurs, concurrence déloyale avec d'autres pays, le gouvernement a annoncé des premières mesures. Comment celles-ci ont-elles été perçues? On constate que le monde rural évolue. Comment les agriculteurs voient-ils leur avenir et les changements de leur profession? On en parle avec notre invité du jour.
Mais tout de suite, votre actu en bref. L'un dans l'autre, les brèves.
Rencontre du CPA de février.
Petrec, auteur-compositeur burgien, installe sa caravane au centre psychothérapeutique de L'Ain. Venez témoigner autour des thèmes du voyage et de l'itinérance les 8, 9, 20, 21, 22 et 23 février. Ces mêmes jours, des ateliers d'écriture sont aussi proposés par Petrec les après-midi. Vos mots créeront une carte géographique sensible et une carte d'identité migratoire présentée lors d'une exposition au CPA en juin.
Mineurs non accompagnés, décision en faveur des migrants.
En ce début d'année 2024, deux jeunes mineurs non accompagnés ont eu gain de cause auprès du tribunal administratif de Lyon après que le département de l'Ain ait refusé de les prendre en charge. L'ASDA ou Association Aide Solidarité Demandeurs d'Asile qui les a accompagnés explique que le recours est un droit fondamental. Il s'agit d'un recours en justice après le refus de prise en charge du département. Apparemment, le département étudie de nouvelles solutions d'hébergement pour les mineurs non accompagnés, dont la création d'un centre de premier accueil.
Club d'investisseurs solidaires à Bourg-en-Bresse.
Le Club des Cigales est lancé à Bourg-en-Bresse. Concrètement, ce club regroupe des investisseurs solidaires qui soutiennent des projets d'intérêt général. C'est un moyen simple d'agir localement pour une économie plus juste. Et bonne nouvelle, tout le monde peut y participer. Vous souhaitez contribuer ? Rendez-vous mardi 13 février à 18h30 à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse.
Lancement de la planification écologique dans l'Ain.
Au niveau national, ça s'appelle France Nation Verte. Il s'agit d'un plan d'action pour faire face aux enjeux climatiques et énergétiques actuels, avec des objectifs à atteindre d'ici 2030. Au niveau régional, l'objectif est de rédiger une feuille de route et de mettre en place des concertations départementales. Dans l'Ain, une première réunion a été proposée le 15 janvier. Elle a permis d'échanger sur les enjeux environnementaux et de mettre en valeur des initiatives locales. Une phase de consultation des administrations va suivre et tous les domaines sont concernés par le plan France Nation Verte. Les transports, l'agriculture, l'industrie, le tertiaire, l'énergie et les déchets. L'un dans l'autre, l'interview.
Depuis le mois de janvier, la colère des agriculteurs a retenti. Pour comprendre leurs revendications, mais aussi leurs préoccupations, nous avons posé nos questions à Alice Courrouble, éleveuse à Ambronay de Port-Plénaire et de Bovins en vente directe. Elle est porte-parole de la Confédération Paysanne de l'Ain. Bonjour Alice Courrouble.
Bonjour.
Donc depuis quelques semaines, il y a un mouvement des agriculteurs. Vous pourriez nous donner vos principales revendications en tant que porte-parole de la Confédération Paysanne de l'Ain?
À la Confédération Paysanne, on met l'accent sur le revenu. Pour nous, le problème de la crise agricole, c'est vraiment une question de revenu des agriculteurs et de pouvoir vivre de son métier avec le nombre d'heures qu'on fait et le travail qu'on fait. Donc nos trois priorités, c'est revoir tous les accords de libre-échange et stopper ceux qui sont en négociation en ce moment. C'est avoir un prix minimum d'achat qui est un prix de revient, c'est-à-dire le prix de production plus le revenu paysan, ce qui n'est pas prévu dans la loi Egalim. Et enfin, un droit d'entrée des produits, c'est-à-dire qu'un produit produit beaucoup moins cher à l'étranger pour diverses raisons, qu'il y ait un droit d'entrée pour qu'on se retrouve à un prix équivalent à ceux de la France.
Et alors, on a entendu le Premier ministre Gabriel Attal annoncer des mesures. Qu'est-ce que vous en avez entendu et à votre avis, quelles pourraient être les solutions immédiates à vos revendications?
Les solutions immédiates sont assez faciles. Hein. C'est réellement faire un stop sur les libre-échanges, qui sont une catastrophe car ils mettent les agriculteurs en concurrence au niveau mondial. Et clairement, on ne peut pas être tous sur le même niveau. Vous avez des pays avec des niveaux de revenus moins importants, des niveaux sociaux moins élevés, des normes environnementales moins élevées. Le droit d'entrée, pareil, les droits de pratiquement de douane sur les pays, c'est une question de choix de pays. Et enfin, les prix minimums que devraient avoir les centrales d'achat, c'est revoir la loi Egalim qui est en fait pas assez stricte et pas assez dure puisqu'elle n'est pas sur le prix de production et le revenu paysan. Il faut aussi inclure tout ce qui va être prix du marché, donc c'est le marché mondial, juste prix, mais donc du coup c'est par rapport aux consommateurs, c'est pas du tout sur ce que coûte un produit à produire. Tout ce qui va être défiscalisation, ça vise juste les plus gros, mais aujourd'hui dans la rue et sur les autoroutes, ce ne sont pas les agriculteurs les plus gros qui y sont. Tout ce qui va être transmission, ça ne va pas aider les installations parce que les installations ne sont plus faites par les enfants, mais bien beaucoup par des gens qui ne viennent pas de l'agriculture. On n'est plus assez nombreux pour avoir des enfants de paysans qui s'installent systématiquement. Vous allez avoir des mesures sur les clauses miroirs dans les libres-échanges. Pour nous, ce n'est pas du tout assez important parce que, comme je vous disais, on n'a pas les mêmes prix de la vie, on n'a pas les mêmes règles de taille de structure, on n'a pas les mêmes règles sociales, on n'a pas le même coût des travailleurs. Enfin bref, les clauses miroirs, seulement au niveau environnemental, ne seront jamais utiles à nous. On sera toujours perdants. L'histoire des travailleurs saisonniers et nous mettre en secteur attention, merci d'avoir découvert que c'était compliqué de trouver des travailleurs agricoles, mais attention de ne pas payer les gens de façon moindre et créer un problème social au niveau agricole. Et voilà, globalement, c'est vraiment des mesures qui vont plaire aux plus gros agriculteurs. Et en plus, on entend un arrêt du plan éco-phyto qui déjà ne fonctionnait pas, alors que nous, à la Confédération Paysanne, on pense qu'il faut des normes, il faut vivre en société. Pour cela, il y a besoin de normes. Mais par contre, pas faire n'importe quoi et pas surtout charger les agriculteurs de façon administrative.
Et justement, là, concernant ces normes, comment vous voyez l'avenir de la profession ? Voilà, on pense au réchauffement climatique, au manque d'eau, aux sécheresses. Vous allez être en première ligne. Comment vous allez vous adapter ?
Alors, pour nous, pour s'adapter, avant de trouver des solutions qui sont des pansements, à stocker l'eau, à trouver des OGM qui seraient résistants ou à utiliser plus de phyto, il faut déjà réfléchir à nos pratiques. C'est-à-dire que quand vous mettez du maïs très gourmand en eau sur des terres séchantes et partant de sécheresse, obligatoirement, il y a besoin d'irrigation et donc de retenue. Pour nous, il faut déjà changer nos pratiques, réfléchir, retrouver des plantes qui acceptent la sécheresse, repenser l'élevage, voir comment avoir des animaux qui puissent pâturer sur de grands territoires. Je vois par exemple sur ma ferme, moi j'ai des friches. Ces friches sont sorties de la PAC, je n'ai pas d'aide dessus, mais par contre, elles me permettent de passer les étés. Enfin bref, c'est revoir nos pratiques et surtout faire des recherches là-dessus. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment sur aider les agriculteurs à conserver leurs pratiques et à stocker de l'eau, à utiliser plus de phyto, d'où l'arrêt de l'éco-phyto, d'où réduire les recours de la société civile sur les bassines qui pourraient être mises en place, etc. On est plus sur ne rien changer pour les agriculteurs plutôt qu'une adaptation.
Et est-ce qu'il faudrait aussi, entre guillemets, avoir des nouveaux agriculteurs ? Est-ce qu'il faudrait de nouveaux paysans ? Comment on les recrute ? Est-ce que...
Alors, des agriculteurs, des projets, il y en a beaucoup en fait. Vous trouvez beaucoup, beaucoup de porteurs de projets, mais ils ne sont pas issus du milieu agricole. Quand ils ne sont pas issus du milieu agricole, ça veut dire que déjà qu'il faut qu'ils apprennent le métier, il faut qu'ils trouvent des terres. Quand vous n'avez pas des terres par vos parents ou votre famille, c'est plus compliqué. Il faut aussi monter son projet, c'est-à-dire que quand vous ne partez pas de quelque chose d'existant, vous avez une idée, et d'arriver de l'idée au projet, il faut le maturer pendant plusieurs mois, voire années. Donc c'est quelque chose qui prend plus de temps. Et en plus, là-dessus, vu que vous n'avez pas les terres, il faut réussir à trouver du foncier accessible qui ne soit pas à un prix exorbitant. Il n'y a pas longtemps, on m'a parlé d'une jolie ferme à reprendre, mais à 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, qui peut rentrer en agriculture comme ça ? Vous n'allez pas vous endetter à vie pour ne pas avoir de revenus, pour finalement pas réussir à vivre de votre métier. Mais par contre, les porteurs de projets existent. Il faut juste arrêter de croire que ce sont les enfants de paysans. Aujourd'hui, les enfants de paysans, ils voient leurs parents en grève là depuis plusieurs semaines et c'est une crise qui dure depuis 50 ans. Ils n'ont pas envie de reprendre les fermes. Et j'ai encore eu l'exemple là, de quelqu'un hier sur le barrage à Saint-Quentin-de-Falavier. Elle est fille d'agriculteur. Son compagnon est installé avec son père. Elle ne voulait pas du tout s'installer en voyant le système conventionnel habituel. Elle a découvert le système paysan de la Confédération Paysanne. Et là, elle recherche une ferme avec son compagnon pour installer une ferme avec de nouvelles pratiques. Par contre, elle ne peut pas reprendre la ferme de son père qui, lui, ne veut pas changer ses pratiques.
Et le salon d'agriculture qui ouvre bientôt, qui est un salon national qui résonne, qui ouvre le 24 février prochain, est-ce que c'est là aussi un événement où vous pouvez vous faire entendre sur différentes revendications ? Est-ce que c'est aussi le moment où vous pouvez créer du lien avec les Français, leur expliquer comment ça se passe concrètement ?
Alors, le problème du salon d'agriculture, c'est une grande vitrine de l'agriculture, c'est important. Certes, c'est quelque chose où on peut toucher les Parisiens et les citadins, mais c'est un endroit, si vous regardez bien dans le salon, c'est beaucoup mis en avant tout ce qui va être robotique, tout ce qui va être grosses machines, tout ce qui va être utilisation de logiciels. Donc sur une l'adaptation de l'agriculture qui, soi-disant, répondrait au changement climatique, mais qui, en fait, va rien faire du tout. On travaille avec le vivant, on ne peut pas remplacer l'humain par des machines. Et on n'y arrivera pas, on a juste besoin d'installations. Et ça, c'est pas au sein de l'agriculture qu'on verra. On verra juste de gros animaux. Une vache d'une tonne, vous ne pouvez plus la mettre dans les prés. Et surtout, vous savez que pour la nourrir, vous n'y arriverez pas avec des sécheresses. C'est ce que vous voyez au salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture, c'est juste une grosse vitrine d'une certaine agriculture. Du coup, à la Confédération paysanne, depuis déjà 3 ans, on a mis en place, en même temps que le salon de l'agriculture, ce qui s'appelle le salon à la ferme, où vous allez trouver sur tous les départements quasiment des fermes ouvertes qui invitent des élus ou des citoyens, enfin suivant les événements, pour essayer de montrer ce que c'est que l'agriculture paysanne et une autre agriculture.
Et est-ce que le lien, justement, ce ne serait pas aussi de créer du lien avec les consommateurs, leur expliquer comment ça fonctionne, comment vous leur parlez aux consommateurs ?
Il y a plusieurs biais pour parler aux consommateurs, mais c'est là où c'est un peu compliqué parce que justement, vous n'avez aucune structure qui va porter ça. L'État ne va pas faire le lien, les collectivités jouent peu le jeu ou alors vont jouer juste le jeu sur leur petit territoire, mais le consommateur ne s'arrête pas à sa commune ou à sa communauté de communes. Par contre, après, vous avez des associations qui s'appellent les AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, où vous achetez directement avec les paysans. Vous allez avoir des portes ouvertes. Il y a beaucoup de départements, vous allez trouver des journées portes ouvertes sur des fermes. Par exemple, l'événement national de ferme en ferme, qui est organisé par diverses structures sur chaque département, qui accueille des milliers de visiteurs par an pour voir les fermes, les visiter. Vous allez avoir aussi, après, des fermes qui ouvrent leurs portes elles-mêmes seules. Vous allez avoir des fermes qui font de la vente directe, où vous êtes accueillis sur la ferme, vous pouvez rencontrer les paysans, il y en a sûrement quand vous êtes à la campagne à côté de chez vous. Et après, tout ce qui va être au niveau des villes, vous avez régulièrement des structures qui organisent des débats avec des agriculteurs, vous avez des partis politiques qui organisent des meetings sur les questions agricoles. Enfin bref, il y a moyen de trouver l'information, mais c'est vrai que ça demande de la chercher. Et après, par exemple, à la Confédération paysanne, vous avez une association qui s'appelle les Amis de la Conf, où vous pouvez adhérer et où vous aurez des informations et où vous pouvez soutenir les agriculteurs.
Le maître mot pour les consommateurs, ça serait acheter en direct et local.
Ça dépend parce que c'est pas si simple que ça. Quand vous êtes en ville, acheter en local et direct, il faut avoir un certain pouvoir d'achat. Je l'ai encore vu l'autre jour en rentrant dans un magasin. Ce qu'il faut, c'est se renseigner, regarder ce qu'on achète, déjà acheter français. C'est regarder où ça a été produit. C'est acheter bio quand on peut. Parce que si vous voulez ne pas polluer l'environnement, il n'y a que le bio qui marche. C'est acheter local. Parce qu'il y a des gens qui ont des pratiques vertueuses aussi, autrement qu'en bio, mais localement. C'est essayer, voilà, comme vous dites, de trouver les choses le plus direct avec les agriculteurs et savoir ce qu'on achète surtout. C'est pas parce que vous achetez en direct que vous allez acheter une agriculture qui vous semble vertueuse.
Merci Alice Courrouble. L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Perrine, merci Jimmy à la réalisation.
Merci Elsa, on vous souhaite une belle semaine et on vous retrouve lundi prochain pour de nouvelles infos locales qui vous engagent. L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.